Un plaisir de retrouver Roslane Mehdi et également Delphine Perrin. J'aimerais remercier les organisatrices Sylvie Mazella et Delphine Perrin pour l'invitation et surtout pour avoir initié cette conférence qui promet d'être riche et stimulante. Mon propos porte sur le droit international des migrations. Le traitement de la migration dans et par le droit international révèle l'ambivalence inhérente à un domaine aux multiples facettes. La migration est tout à la fois une affaire intérieure et une affaire internationale. Elle est d'abord traditionnellement conçue comme une question interne qui relève de la souveraineté de l'État sur une conception très classique et, pour ne pas dire vieillissante, du droit international, en vertu de laquelle l'État disposerait d'une autorité pleine et entière sur son territoire et sa population. Mais la migration est aussi et surtout une affaire de relations internationales. La migration, de par sa nature même, est une question internationale dans la mesure où elle postule une relation triangulaire entre un migrant, son état d'origine et l'état de séjour. Et bien que la migration a longtemps été considérée à travers sa seule dimension interne, le contexte international dans lequel s'inscrit la question migratoire s'est considérablement renouvelé durant la dernière décennie. Le début de ce siècle a vu apparaître une prise de conscience sans précédent de la migration comme nouveau champ du multilatéralisme. En effet, si la migration est aussi ancienne que l'humanité, elle est devenue plus visible que par le passé, et chaque pays se sent désormais concerné. Qu'il s'agisse des pays d'immigration, d'émigration et de transit, et certains d'entre eux, comme au nord de l'Afrique, sont les trois à la fois. La migration est donc aujourd'hui une composante à part entière de la mondialisation, et cette migration, désormais perçue comme une question d'intérêt commun, interpelle le droit international dans son aptitude à répondre à l'une des grandes questions de notre temps. Cette prise de conscience interpelle le droit international, mais en même temps ouvre des perspectives nouvelles pour penser le droit international comme vecteur de régulation des migrations. Car comme bon nombre d'activités humaines, le fait de quitter un pays pour aller dans un autre n'échappe pas à l'emprise du droit international, même si cette emprise est encore souvent méconnue. Cette emprise du droit international est méconnue probablement aussi en raison de l'éclatement des normes internationales applicables. Il existe au niveau universel de multiples normes applicables au migrant et réparties entre de nombreuses branches du droit international, le droit des réfugiés, les droits de l'homme, le droit du travail, mais on pourrait multiplier à l'infini le droit consulaire, le droit de la mer, le droit humanitaire, etc. Il en résulte un amalgame disparate de normes qui ne sont pas articulées entre elles de manière claire et cohérente. Et comme beaucoup d'autres domaines juridiques, le droit contemporain régissant la migration est le produit d'une élaboration compartimentée, détachée de toute vision d'ensemble. Et l'éclatement de ces normes nuit à leur compréhension et à leur application effective. Et la première difficulté pour penser le rôle du droit international dans la migration tient précisément au caractère fragmentaire et hétérogène des règles existantes. Et le cadre normatif pourrait être comparé à un puzzle géant dont les pièces sont apparues au fil du temps, mais dont le nombre définitif est encore incertain, si bien que le tableau d'ensemble reste encore à inventer. Et c'est dans ce contexte normatif fragmenté et éclaté que l'expression droit international de la migration prend, à mon avis, tout son sens. Et c'est la raison pour laquelle je défends cette idée, parce que l'expression droit international de la migration a une vertu, à mon avis, essentiellement méthodologique, pour ne pas dire pédagogique. Elle permet d'appréhender la migration comme un objet d'étude à part entière, de manière à encourager une démarche plus cohérente dans la conception et l'interprétation des normes. Cet exercice de reconstruction est d'autant plus nécessaire que la matière est composée d'une mosaïque de normes qui ne peuvent plus être interprétées dans le vase clos de son propre champ d'application. Le droit de la mer s'applique aux migrants et ne peut pas être pensé qu'à travers les catégories juridiques du droit de la mer. et on pourrait multiplier les exemples. Ces normes ne prennent sens que dans leur rapport aux autres normes régissant le phénomène. Et l'expression « droit international de la migration » permet ainsi de saisir l'unité et la diversité qui caractérisent ce domaine. Et afin de promouvoir une approche plus dynamique, plus cohérente de ces règles éparses, l'expression générique « droit international des migrations » permet de regrouper l'ensemble des règles internationales qui s'appliquent à une personne qui quitte un pays pour aller dans un autre à titre temporaire ou durable. Et cette définition permet ainsi d'englober le phénomène migratoire dans ses deux composantes, l'émigration et l'immigration, et de s'appliquer à tout migrant, indépendamment de caractère volontaire ou pas, du mouvement, de la durée de son séjour, etc. Alors évidemment, il s'agit encore, je ne pourrais pas dire que le droit international des migrations est admis partout. Il n'est pas encore pleinement reconnu comme une discipline à part entière. Mais je pense que promouvoir une approche systémique des normes applicables aux migrants est de nature à renforcer leur compréhension et leur mise en œuvre. Et le terme même, droit international des migrations, n'est pas nouveau en soi. Déjà en 1927, un auteur, Louis Jarlès, dans un cours à l'Académie de la Haye, parlait du droit international des migrations. Et il écrivait une chose très juste qui fait écho au propos de Delphine Perrin. Louis Jarlès disait en 1927 que l'étude du droit international des migrations, je cite, montre qu'on se trouve actuellement en présence d'une activité réglementaire extrêmement vivace et luxuriante, où il est possible, mieux peut-être que pour aucun autre phénomène, de suivre la vie du droit en voie de constante évolution. Et en 1927 comme aujourd'hui, la migration est au cœur de l'évolution du droit international général. Et je propose, pour illustrer mon propos, de me concentrer sur le droit coutumier, qui curieusement a fait l'objet très peu d'études dans le domaine de la migration et qui, à mon avis, joue un rôle essentiel pour... deux raisons principales. Le droit coutumier est un rôle essentiel dans le droit international des migrations. D'abord parce que, par définition, le droit coutumier lie tous les États indépendamment de la ratification des traités. Donc le droit coutumier est ce qu'on pourrait appeler un droit authentiquement mondialisé qui lie tous les États. La deuxième raison de l'importance du droit international coutumier, c'est que le droit international coutumier permet de saisir le phénomène migratoire dans ses trois composantes essentielles que sont le départ, l'admission et le séjour. Et j'ai effectué une recherche sur les règles coutumières régissant ces trois composantes, départ, admission et séjour, qui sont parues en anglais dans le Research and Book on Migration and International Law l'année dernière. Et je me propose simplement de revenir sur cette recherche. Tout d'abord, le départ est régi par le droit de quitter tout pays. C'est l'acte fondateur par excellence du droit des migrations et sans lequel il n'y aurait pas de place aux règles internationales. Si le départ est reconnu comme une liberté fondamentale, il y a donc place pour un droit international des migrations. Et là, la nature coutumière du droit de quitter tout pays peut être déduit de la représentation très large et représentative des nombreux traités qui consacrent cette liberté fondamentale. Elle est notamment consacrée par 6 traités conclus par l'ONU, par 5 conventions régionales sur les droits de l'homme, et ainsi que par la convention de 1949 sur la protection des civils en période de conflit armé, car le droit de quitter son pays inclut le droit de le quitter lorsqu'il est en guerre, comme nous le rappellent tous les réfugiés fuyant la Syrie. Et lorsque j'ai fait cette recherche, j'ai été surpris de voir que très peu d'États ont formulé des réserves sur le droit de quitter tout pays. En réalité, s'agissant des traités ONU, il y a seulement 2 États dans le monde qui ont formulé des réserves, à savoir la Malaisie et la Thaïlande, et ces réserves ont suscité des objections d'un grand nombre d'États. Donc ça montre que cette norme est acceptée, et la participation, la ratification des 6 traités de l'ONU et des 5 conventions régionales est quasi unanime au niveau des États membres de l'ONU, car il n'y a en réalité qu'un seul État membre de l'ONU qui n'ait pas ratifié l'un ou l'autre des traités internationaux endossant la libre circulation, c'est le Sud-Soudan, et cela pourrait être amené à changer. Donc vraiment, on a une participation, une ratification très large des traités endossant le droit de quitter tout pays. J'ai également poursuivi cette recherche en constatant d'une part que bon, dans la doctrine, il y avait un nombre important d'auteurs qui consacraient ces natures coutumières, mais de façon plus surprenante encore, j'ai constaté que le droit de quitter tout pays était consacré dans 116 constitutions dans le monde, ce qui montre l'importance, puisque la constitution, finalement, en droit interne, est un petit peu l'horizon indépassable, sous l'angle du droit interne seulement, évidemment, et qui montre l'importance de cette liberté fondamentale. Et un autre élément, la fin de l'objection persistante du bloc de l'Est a joué un rôle crucial dans ce processus de maturation coutumière, car les opposants traditionnels au droit de quitter tout pays, l'Union soviétique et le bloc de l'Est, ont fini par reconnaître officiellement le droit de quitter tout pays à travers l'acte d'Helsinki et beaucoup d'autres textes. Alors, évidemment, le droit de quitter tout pays, pour coutumier soit-il, fait l'objet de violations. Mais finalement, la violation fait partie du droit, autrement on n'aurait pas besoin du droit. Et le droit de quitter tout pays n'est pas plus violé que l'interdiction de la torture et l'interdiction de la discrimination, dont la nature coutumière n'est pas discutée et est clairement établie. Et du reste, les États qui sont accusés de violer le droit de quitter tout pays ne remettent pas en cause ce droit, mais invoquent des justifications en expliquant qu'il s'agit de restrictions, car évidemment le droit de quitter tout pays n'est pas un droit absolu. Il est susceptible de faire l'objet de restrictions, mais comme l'est la liberté d'expression et la liberté de religion. Donc le droit de quitter tout pays, à mon sens, solidement ancré dans le droit international coutumier, et constitue le préalable à toute réflexion sur le droit international des migrations. Deuxième volet, le droit international coutumier ne saisit pas seulement le départ, il saisit également l'admission des étrangers. Alors évidemment, la principale limite ici, c'est que le droit de quitter tout pays ne s'est pas accompagné d'un droit d'entrée dans un autre pays. Les instruments internationaux se bornent à reconnaître le droit de rentrer dans son propre pays. Donc il y a une logique assez circulaire qui place le migrant dans une impasse. Le migrant, en amont, a le droit de quitter son pays et en aval, de rentrer dans son propre pays, sans le droit corrélatif d'entrer dans un autre pays. Car cette question serait finalement régie par la souveraineté de l'État. Mais là encore, la souveraineté de l'État dans le domaine de l'admission des étrangers appelle un certain nombre de tempéraments à la fois historiques sur la nature même de cette compétence et sur ses limites. Sur le plan strictement historique, le postulat selon lequel le droit de contrôler l'admission des étrangers serait l'un des premiers pouvoirs de l'État demeure très discutable. De fait, la liberté de mouvement a longtemps été la règle plutôt que l'exception, et plus encore, l'apparition d'État-nation au XVIe siècle et son corollaire implicite, la souveraineté, n'ont pas coïncidé avec l'introduction des contrôles migratoires. Ces contrôles migratoires sont intervenus de façon beaucoup plus tardive, et c'est une invention assez récente de l'humanité qui apparaît dans les législations internes à la fin du XIXe siècle pour ensuite banaliser pendant l'entre-deux-guerres. Donc, cette compétence est somme toute récente. Ensuite, cette compétence n'a pas été appliquée de façon aussi catégorique au point d'interdire l'entrée à tout étranger. Dans ce domaine comme dans d'autres, le droit international des migrations est le reflet de l'évolution qu'a connue la notion de souveraineté. La souveraineté n'est plus ou pas cette liberté absolue pour l'État de faire ce que bon lui semble. La souveraineté est à la fois une compétence et une responsabilité. La souveraineté est une compétence, celle de réglementer dans son droit interne l'admission des étrangers, mais la souveraineté est aussi une responsabilité, celle de mettre en œuvre une politique migratoire dans le respect du droit international. Et cette responsabilité est régie par certaines normes de droit international coutumier. C'est-à-dire que la compétence de l'État de réglementer l'accès au territoire est régie notamment par le principe de non-refoulement, qui interdit de renvoyer une personne vers un pays qui risque la torture, traitement inhumain ou dégradant ou la persécution. La nature coutumière du principe de non-refoulement est aujourd'hui reconnue par la grande majorité de la doctrine sur la base de trois constats assez évidents. Premier constat, la pratique étatique est large et représentatif, puisque plus de 90% des États membres de l'ONU ont ratifié un ou plusieurs traités qui reconnaissent le principe de non-refoulement. Deuxième constat, les rares États qui n'ont pas ratifié ces traités n'ont jamais prétendu avoir le droit absolu de renvoyer une personne vers la persécution. Et d'ailleurs, j'étais même surpris, quand j'ai fait mes recherches, de trouver des déclarations officielles d'États non partis aux différents traités qui reconnaissent la nature coutumière du principe de non-refoulement, notamment le Myanmar et le Bangladesh. Alors même qu'ils pourraient très bien dire « Non, je ne suis parti à aucun traité, je ne suis pas lié par le principe de non-refoulement. » Donc c'est là. Et le troisième constat, en faveur de la nature coutumière du non-refoulement, c'est que cette nature coutumière a été constatée, et là encore j'ai été surpris de découvrir un très grand nombre de déclarations, notamment unilatérales au sein de l'ONU, au sein de l'Assemblée Générale de l'ONU, constatant explicitement la nature coutumière du non-refoulement. Sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail. Et, l'une des reconnaissances les plus évidentes, c'est la déclaration adoptée en 2001 par les États partis à la Convention de Genève sur les réfugiés, qui a explicitement reconnu la nature coutumière du non-refoulement. On pourrait également citer la déclaration de Kampala de l'Union africaine en 2009, qui va dans le même sens, mais même la Cour pénale internationale l'a reconnue. Donc il y a vraiment tout un faisceau d'indices qui invite à considérer que le principe de non-refoulement fait partie du droit coutumier et lie tous les États. Une autre norme particulièrement importante dans l'admission des étrangers, c'est l'interdiction des expulsions collectives. Et à mon avis, l'interdiction des expulsions collectives fait partie du droit international coutumier. Elle est consacrée dans tous les traités régionaux sur les droits de l'homme. Et je me suis amusé à faire le décompte, il y a plus de 140 États qui ont ratifié l'un des traités régionaux sur l'expulsion collective. Et de manière encore plus convaincante, j'ai, en tout cas pour moi, après, c'est pas obligé d'être convaincu, même les États qui n'ont pas ratifié ces traités ont reconnu la nature coutumière. J'ai trouvé des déclarations notamment de la Chine et de l'Iran qui déclarent que l'interdiction de l'expulsion collective fait partie du droit international coutumier. Et donc là, c'est une autre norme avec le principe de non-refoulement, l'interdiction de l'expulsion collective qui joue un rôle clé pour réglementer la compétence de l'État. On pourrait citer d'autres exemples, l'interdiction de la détention arbitraire codifiée par tous les traités dont la nature coutumière a été reconnue par le Comité des droits de l'homme, par le groupe de travail de l'ONU sur la détention, par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, etc. Est une norme importante. Alors évidemment, détenir une personne en raison de son entrée irrégulière n'est pas considéré comme arbitraire en soi. Il n'empêche que la détention de clandestins suppose un certain nombre de conditions, une base légale, un examen au cas par cas, principe de proportionnalité. Et là encore, la nature coutumière de cette norme permet de réglementer cette pratique. S'agissant de la détention, le droit des détenus d'accès à la protection consulaire peut également être considéré comme une norme coutumière codifiée dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1900, l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Il y a un certain nombre de reconnaissances de sa nature coutumière. On pourrait multiplier d'autres exemples. Le devoir de protéger les personnes en détresse en mer est, à mon avis, aussi coutumier. Ce principe existe avant même l'apparition de l'État-nation. Avant même le XVIe siècle, ce principe existait. Donc il y a de très fortes raisons de considérer que le devoir des capitaines de bateaux de sauver les personnes en détresse est coutumier. Donc on voit très bien qu'à travers un sujet apparemment un petit peu conventionnel, voire classique, le droit coutumier, on peut revisiter la compétence de l'État et l'admission des étrangers. Le droit coutumier régit le départ, il régit l'admission, mais il régit aussi le séjour. Et là encore, la question du séjour a fait l'objet de développements assez intéressants. Le traitement qui doit être accordé aux étrangers en vertu du droit coutumier a fait l'objet de controverses assez importantes au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il y avait deux écoles, le traitement national, défendu par les États nouvellement indépendants, essentiellement l'Amérique latine, et le traitement minimum, le standard minimum, défendu par les États industrialisés. À la suite d'une évolution que je ne passerai sous le silence ici, la pratique étatique s'est orientée en faveur du traitement international, c'est-à-dire que tout État est tenu d'accorder à l'étranger un standard minimum issu de la coutume universelle. Et par exemple, Verdros, un éminent juriste autrichien, écrit en 1931, je cite, « Les États sont obligés par le droit des gens à respecter dans les étrangers la dignité de la personnalité humaine en leur reconnaissant les droits nécessaires à cette fin. » Et c'est assez intéressant parce qu'en 1931, les droits n'existaient pas au niveau international. Donc, le droit des étrangers a constitué le laboratoire conceptuel et normatif des droits, du droit international des droits de l'homme. Même si aujourd'hui, le standard minimum a été très largement absorbé par le droit international des droits de l'homme et même la très conservatrice Cour internationale de justice l'a reconnu. S'agissant du séjour, la principale norme, et je me limiterai à celle-ci, de droit coutumier, c'est l'obligation générale de respecter les droits de tout individu placé sous la juridiction de l'État indépendamment de la nationalité ou de son absence de nationalité. Ce principe de non-discrimination qu'on retrouve codifié dans tous les traités droits de l'homme fait partie, à mon sens, du droit international coutumier. D'ailleurs, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a même considéré que c'était une norme de jus cogens, une norme impérative de droit international général. Alors évidemment, l'interdiction de la discrimination ne prohibe pas les différences de traitement. Une différence de traitement reste licite dès lors qu'elle est fondée sur des critères objectifs et raisonnables et poursuit un but légitime, ceci faisant l'objet d'un examen au cas par cas, mais il n'empêche que le principe de non-discrimination atténue fortement la distinction traditionnelle entre étrangers et nationaux pour assurer des droits fondamentaux à toute personne, y compris les migrants. Pour conclure de ce panorama du droit international coutumier, le droit international des migrations est solidement ancré dans le droit international positif. Il puise sa source dans la coutume, dont le contenu est précisé et complété par différents traités à vocation universelle. Alors évidemment, le principal défi, l'intérêt du droit coutumier, c'est qu'il donne corps au droit international des migrations pour rétablir et réglementer ces concepts clés, départ, entrée, séjour, mais le principal défi, c'est celui de la mise en œuvre. On sait tous que les migrants sont les victimes des violations les plus diverses. Cette difficulté, ce constat n'est pas nécessairement propre à la matière. Il y a d'autres domaines du droit international qui sont violés, mais elle est évidemment plus visible que dans d'autres champs du droit international. Et il reste encore beaucoup à faire pour assurer le respect effectif des droits fondamentaux des migrants qui sont finalement structurellement vulnérables aux abus du fait qu'ils ne soient pas ressortissants des États et cette vulnérabilité est souvent exacerbée par l'absence de titre de séjour. Il n'en reste pas moins que la coopération interétatique connaît aujourd'hui une accélération sans précédent. Et cette prise de conscience témoigne d'un changement de perception à l'égard des migrations, l'ont trop souvent appréhendé à travers un prisme étroitement sécuritaire, pour ne pas dire xénophobe. Par-delà ces vertus pédagogiques, l'internationalisation du traitement de la migration suppose une approche équilibrée, fondée sur les intérêts mutuels des différents acteurs de la migration, l'état d'origine, les migrants, les états de transit et les états de destination. Mais les États doivent désormais apprendre à coopérer dans un domaine qu'ils ont longtemps considéré comme relevant de leurs compétences nationales. Et c'est là, à mon avis, le principal défi, apprendre aux États à coopérer sur ce domaine. Et pour réaliser l'importance de ce défi, et en lien avec la démarche interdisciplinaire, je finirai par citer l'illustre économiste Keynes qui disait que dans le domaine de l'apprentissage comme celui de la connaissance, la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d'échapper aux idées anciennes qui ont poussé leurs ramifications dans tous les recoins de l'esprit. Et la souveraineté en fait peut-être partie. Merci.